Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Mathieu Bock-Côté. Cher Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Arthur de Vatrigan.
Bonsoir.
À la une de l'Incorrect, 1954, Dien Bien Phu, notre honneur, leur trahison à découvrir donc dans les kiosques ce mois-ci. Messieurs, le point sur l'information, c'est avec Augustin Donadieu. Bonsoir Augustin.
Bonsoir cher Elliot, bonsoir à tous. Le gouvernement annonce le déblocage de 1,1 milliard d'euros en faveur des services de soins palliatifs. Des soins palliatifs rebaptisés en soins d'accompagnement par l'exécutif, alors que le projet de loi sur la fin de vie sera présenté au Conseil des ministres mercredi prochain. Ce dernier devrait ouvrir la possibilité strictement encadrée d'une assistance au suicide. Y aura-t-il une nouvelle trêve au Proche-Orient? Des négociateurs américains, israéliens et du Hamas doivent se réunir demain au Caire. Ils tenteront de négocier une trêve associée à une libération d'otages. Il serait 129 toujours détenus par le Hamas, dont une trentaine seraient morts, selon l'armée Tsahal. Et le Zouave à Paris a les pieds dans l'eau. Regardez ces images. Le fleuve qui traverse la capitale a vu son niveau monter ces derniers jours à 4,12 m. C'est plus du double que sa hauteur habituelle qui s'établit normalement entre 1 et 2 m. La Seine reste en vigilance jaune pour crue, mais son niveau devrait commencer à baisser dans la soirée.
Merci cher Augustin pour le point sur l'information. À la une de Face à Mathieu Bock-Côté, la mort de Sam Chedid à 15 ans, l'agression de Samara, 13 ans, sidère autant qu'elle désespère. L'âge des bourreaux montre une fois de plus qu'une partie de la jeunesse est biberonnée à l'ultra-violence. Les limites n'existent plus, l'ensauvagement progresse. Les coups pour remplacer les mots, bien qu'une partie de la classe médiatique continue de regarder ailleurs, difficile de nier le réel, la violence juvénile, au cœur du premier édito de Mathieu Bock-Côté. À la une également, on pensait avoir tout lu, tout entendu sur CNews ces dernières semaines. Mais le Huffington Post redouble d'imagination. Ce web média explique comment notre chaîne divise les familles. Oui, CNews est une source de conflits au moment du déjeuner dominical. Un papier à rendre jaloux Mediapart ou le Gorafi. Alors qui désinforme quand le grotesque et l'idéologie se marient? On en parle dans cette émission. Enfin, Mathieu Bock-Côté, vous voyez double ce soir en matière d'invités. L'un est maire de Cannes, l'autre secrétaire général de France Télévisions. David Lisnard et Christophe Tardieu se sont replongés dans les années Pompidou pour un ouvrage à quatre mains sur la France d'hier, puissante, prospère, où les comptes publics étaient au vert. Alors Mathieu, c'était mieux avant? On se posera très probablement la question. Voilà le programme de Face à Mathieu Bock-Côté. Face à Mathieu Bock-Côté, c'est parti. Mathieu Bock-Côté, l'actualité des derniers jours s'est déroulée sous le signe de la violence des mineurs. On pense évidemment à ce jeune homme de 15 ans battu à mort. On pense aussi à l'histoire de Samara. Et c'est particulièrement sur cette dernière que vous voulez revenir, vous souhaitez revenir. Et plus particulièrement sur son traitement médiatique. Expliquez-nous.
C'est une histoire délicate et c'est une question délicate. Donc j'essaierai d'être délicat pour parler de cette question. Alors la mère de Samara, nous le savons, lorsque l'histoire est rendue publique, témoigne et donne son interprétation des événements. Elle explique que selon elle, et je prends les précautions nécessaires parce qu'on verra au terme de toutes les enquêtes, mais selon elle, sa fille a été plus que maltraitée, agressée, conduite au seuil du trépas par des gens qui globalement lui reprochaient de s'habiller à l'européenne. Ce que veut dire s'habiller à l'européenne, ça veut dire s'européaniser culturellement. Ce qu'on appelait autrefois s'assimiler. L'assimilation, quoi qu'on en dise, ce n'est pas la conversion à des idéaux désincarnés et lointains qu'on parera du beau mot de république. L'assimilation, c'est vivre comme les Français, c'est vivre comme les Européens, c'est vivre comme les Occidentaux, ce qui implique d'adopter les mœurs des Occidentaux, les mœurs des Européens, les mœurs des Français. Première version, On ajoute aussi, la mère nous dit, elle a été persécutée, on l'a traitée de koufar, donc de mécréante, donc de mauvaise musulmane. Et autrement dit, peut-être plus musulmane du tout, du point de vue de ceux qui l'agressent et selon ce que nous dit la mère. Premier témoignage qui est au cœur de l'actualité. Le lendemain, je crois, ou le surlendemain, non, le lendemain, de passage à TPMP, la mère de Samara nous dit, alors elle reconduit, elle rappelle les événements, mais là elle sort un texte qui semble manifestement écrit, presque un communiqué, un texte qui, je pose la question sans l'affirmer, lui a-t-il été dicté? Et là, c'est un texte où elle nous dit, « Ma fille était une bonne musulmane, ce n'est pas une mécréante, elle est pieuse, elle respecte la foi. Donc pourquoi a-t-elle été battue? A-t-elle été, en fait, agressée et plus? » Ce qui nous amène à poser encore une fois une question. Cet argument est trouble. Est-ce qu'on entend par là, je devine que ce n'est pas le cas, mais que si elle n'était pas pieuse, si elle n'était pas bonne musulmane, si elle n'était pas impeccable dans sa pratique de l'islam, eh bien, on pourrait peut-être comprendre le fait qu'elle a été tabassée, mais puisqu'elle n'est pas dans cette situation, elle ne mérite pas le mauvais sort qui était le sien. Parce que veut dire la portée de cet argument dans les circonstances? C'est-à-dire, pourquoi l'avez-vous tapée? Pourquoi l'avez-vous massacrée? Elle est bonne musulmane. On comprend le sous-texte d'une telle affirmation. On peut comprendre, on peut deviner que la mère, prise de panique, devant les suites possibles de cette histoire, est décidée d'envoyer un signal de fidélité ostentatoire à sa communauté, comme elle dit. C'est une possibilité. Il n'en demeure pas moins qu'on a donc vu, dans le discours de la mère, en l'espace de 24 heures, un basculement. Il y a la version 1 de l'histoire, et là, on pourrait dire la version spontanée. La version, le témoignage spontané qui n'est pas encore recyclé, qui n'est pas encore reconfiguré, qui n'est pas encore réécrit par le système, qui n'est pas encore repris de telle manière qu'il devienne idéologiquement compatible avec les médias. Il y a la version 1, qui bouleverse tout le monde d'ailleurs. Je note que dans certains journaux, par exemple, on a raconté l'histoire de Samara sans donner aucune dimension culturelle. Toute la dimension culturelle était occultée. S'habiller comme une Européenne, mécréante, koufar, c'était pas là. Donc on était devant une banale histoire de harcèlement scolaire qui avait mal tourné, alors que manifestement, il y avait une autre dimension. Et la deuxième, le deuxième récit, donc, qui est un récit qui était réécrit. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'est une hypothèse, encore une fois, que je fais. J'ai l'impression que nous sommes devant un cas où une femme a d'abord parlé spontanément, elle a vu ce qu'elle a vu avant d'être reprise en main par les associations, par les groupes, par les mouvements, qui se donnent comme mission, lorsqu'un événement comme celui-là apparaît, qui se donnent comme mission de s'emparer immédiatement de l'histoire de la victime ou des proches de la victime pour proposer un récit médiatiquement compatible. Que nous dit la mère de Samara? Elle nous dit notamment « Je ne veux pas que cette histoire soit récupérée par l'extrême droite ». Il faut comprendre que c'est une formule rituelle, ça. C'est-à-dire, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on appelle récupération aujourd'hui? La récupération, c'est la volonté de trouver la signification sociologique et politique et culturelle et historique même des événements qui sont dans la trame de fond de l'insécurité dans nos sociétés. Et on nomme récupération la volonté de comprendre ce qui se passe. Pendant longtemps, ne l'oublions pas, le régime diversitaire disait que rien ne se passait. L'insécurité était une hallucination, un sentiment, un fantasme. Maintenant qu'il n'est plus possible de nier l'existence de la chose, on nomme l'insécurité pour immédiatement, les événements d'insécurité, pour immédiatement nous dire qu'ils n'ont aucune signification collective. On les nomme faits divers. Et toute réflexion sur les faits divers est assimilée à une forme de récupération d'extrême droite. Donc n'en parlons pas. On voit qu'autour de ces événements, puis il y en a beaucoup d'événements comme ça, mais la guerre du récit est centrale. Je ne peux m'empêcher de penser à l'histoire de Lola. Vous savez, l'histoire tragique de la petite Lola. Rappelez-vous ce qui se passe au début, très rapidement, la question du fait que l'agresseur, la meurtrière présumée, était en situation d'OQTF. Autrement dit, elle n'aurait pas dû être sur le territoire du pays. Très rapidement, ça devient un enjeu de débat. Et ceux qui mentionnent le fait que l'élément OQTF est important se font accuser de récupération d'extrême droite, comme d'habitude. La bataille du récit est engagée, mais le commun des mortels a retenu qu'on était devant un crime qui avait une dimension politique parce que la dame ne devait pas être ici. Eh bien, on a la 5, rappelez-vous, qui a fait un documentaire dans la fabrique du mensonge de mémoire, où on nous dit, En fait, c'est tout. Les médias publics sont mobilisés pour imposer un récit pour nous dire que tout est un strict fait divers. Et si vous voyez autre chose, vous êtes d'extrême droite, vous êtes d'extrême droite, vous êtes un peu fasciste. Vous connaissez la suite. Et des moyens immenses avaient été mobilisés. Les moyens des Français, les ressources publiques. Vous savez, l'argent public, ce n'est rien d'autre que l'argent privé confisqué aux Français et mis au service de l'État par la technique du braquage fiscal. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? On voit l'État qui cherche à imposer une interprétation pour éviter de troubler le récit de la diversité heureuse. Ce qui est tragique, c'est que le père, ensuite, dont on sait le mauvais sort, il nous a quittés il y a quelques semaines, le père avait donné dans une interview quelques semaines ou mois avant sa mort, il dit « Si l'OQTF avait été respecté, le père de Lola, ma fille serait encore vivante. » Autrement dit, lui-même, on avait tout fait pour le faire taire, on avait tout fait pour neutraliser son récit, mais lorsqu'on lui a donné la parole plus tard, lorsqu'on a cessé d'avoir une parole médiatisée par des interprètes autorisés par le système, bien, le père a dit une vérité qu'apparemment il fallait taire. De cette manière, les deux histoires se répondent.
Et pourtant, Mathieu Bocoté, dans l'affaire Samara, le parquet pour l'instant ne retient pas la dimension religieuse.
Quelle surprise! Ah, je suis étonné. Ça me fait penser à l'histoire de Crépol. Et vous savez l'histoire de Crépol où, selon les témoignages, il y avait une bande qui voulait planter du blanc. Faut juste le rappeler. Ce sont les faits de base. Et là, le système médiatique et idéologique et institutionnel ensuite ne peut pas accepter l'hypothèse du racisme anti-blanc. On a expliqué que ça n'existait pas théoriquement. La sociologie universitaire l'a dit. Donc si ça n'existe pas, ça ne peut donc pas se passer. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans l'histoire de Crépol? Il y a eu une réécriture, et là qui est soutenue d'ailleurs par des médias comme Mediapart et ainsi de suite, qui nous disent que finalement, la véritable victime dans tout ça, c'est le vivre ensemble. C'était pas le pauvre Thomas. Donc dans le cas de Crépol, on a tout fait pour nous expliquer que planter du blanc ne témoignait pas d'une forme de racisme anti-blanc. Je pense qu'on est en droit de critiquer ce jugement. Les autorités, on peut se demander, moi j'ai tout le respect du monde pour les autorités judiciaires, mais on peut se demander si elles ne sont pas trompées. Dans le cas présent, pour l'instant, on a l'impression que des termes comme couffard et comme mécréant, on décide de les priver de leur signification. Ça n'a pas eu lieu. Donc on dit, on ne retient pas ça. Donc là, ensuite, la suite de l'histoire, c'est si vous décidez d'en parler, vous êtes dans la fake news. Et encore une fois, le système est là pour nous dire que le réel n'a pas eu lieu. Le réel est inversé. Et là, ça nous oblige, encore une fois, je suis obligé de m'en reparler. C'est le vocabulaire populaire, on est comme en URSS là-dessus. Le commun des mortels a appris à traduire ce qu'on ne lui disait pas, a appris à traduire les mots qu'on lui offrait. Donc voilà comment des termes comme Kevin et Mathéo, les jeunes, les quartiers populaires, les quartiers sensibles et l'ensauvagement sont des termes qui sont apparus dans le vocabulaire ordinaire pour nommer une réalité qu'on ne peut pas nommer. Et de ce point de vue, cette histoire est un révélateur de la censure posée, j'y reviendrai dans un instant, sur ce qu'on doit bien appeler le choc des civilisations à la française et la présence d'un islamisme conquérant, qui fait que tous ceux qui portent l'islamisme ne sont pas des djihadistes convaincus et ardents, mais l'islamisme modèle la culture, forme la culture, oriente la culture et finit par imposer sa loi.
On en a entendu plusieurs parler depuis ces événements tragiques d'une nécessité de punir, de la nécessité même d'éduquer les jeunes à la distinction entre le bien et le mal. N'est-ce pas l'essentiel, Mathieu Bocoté?
Oui, bien sûr. Mais pas tant que ça non plus. C'est-à-dire, à un moment donné, si on pense qu'on est devant une partie de la jeune génération qui est étrangère au bien et au mal, il faut se demander ce qui s'est passé. Hein. Et là, je vois le système d'explication générale, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, peu importe le souci que vous avez, expliquez ça par les réseaux sociaux et c'est réglé. Hein, vous avez la guerre en Ukraine, la fonte des glaces, tout ça. Les réseaux sociaux ont quelque chose à voir avec ça. Mais dans les circonstances, tout ce qu'on utilise comme système d'explication, c'est les réseaux sociaux. En toutes circonstances, ou les jeux vidéo qui exciteraient la violence et l'agressivité. Je veux bien, je me désole de l'emprise des réseaux sociaux sur nos vies à ce point. Mais sur le fond des choses, qu'est-ce qu'on voit? On est, je le redis, dans le choc des civilisations au quotidien. Sabiale européenne, le droit, et là je reparle d'une autre histoire ici, le droit de draguer des filles, d'approcher des filles. Il y a des sanctions communautaristes qui sont appliquées, souvent, pour punir ceux qui ne respectent pas les codes de l'islamisme conquérant. Ça peut conduire quelquefois jusqu'à la mort, ça peut conduire jusqu'aux choses les plus atroces. Et autour de ça, encore une fois, il y a la question centrale des femmes, il y a la question centrale du pouvoir exercé sur les femmes, de la négation de la liberté revendiquée par les femmes, la possibilité pour les femmes qui viennent de cultures plus traditionnelles de trouver en France un espace d'émancipation véritable. Il y a des sanctions communautaristes sous le signe du code du crime d'honneur qui existe. Heureusement, c'est une minorité dans ces communautés qui font ça, parce que l'immense majorité, on le devine, sanctionne et condamne de telles choses. Mais les minorités gardiennes d'une moralité très rigide et d'en fait d'appartenance communautaire fixée, porte ton voile, si tu portes pas ton voile, tu n'es pas des nôtres, si tu n'es pas des nôtres, tout est permis contre toi. Ben, tout ça, on l'a devant soi, mais donc avec des persécutions quotidiennes, des persécutions réelles dans de plus en plus de quartiers, mais on préfère dire réseaux sociaux. L'explication par les réseaux sociaux, c'est le nouveau visage, je crois, de la lâcheté sociologique et intellectuelle.
Quel regard, Arthur de Vatrigan, portez-vous sur cette semaine qui a été effectivement marquée du signe de l'ultra-violence?
Mathieu a parfaitement raison. Il y a encore une fois la guerre de récits et le faux récit qui se met en place. Donc comme il y a un faux récit qui se met en place, si vous me permettez, j'essaie de rétablir quelques vérités. Et en m'éloignant du cas de Samara, de ce cas affreux, puisque si on a quelques éléments, il y a encore des zones d'ombre qui méritent des éclaircissements. Mais malheureusement, on connaît en France, depuis des années, des cas de conflits, des cas de violence, des cas d'affrontements, notamment à l'école, qui ont été prouvés et documentés. Et qui ne sont pas des faits divers, qui sont des faits de société, tout simplement, parce qu'ils ne cessent de se reproduire, qu'ils sont de plus en plus nombreux, et qu'ils opposent toujours les mêmes bourreaux aux mêmes victimes. Et même le gouvernement le dit, et les instances officielles l'affirment, puisqu'il parle d'atteinte à la laïcité qui ne cesse de croître. Alors derrière l'habillage un peu fumeux de l'expression « atteinte à la laïcité », tout le monde a bien compris qu'il s'agissait d'attaques contre la France. Alors premièrement, il faut comprendre que dans le dispositif islamique, l'école joue un rôle aussi fondamental et symétrique que dans la philosophie républicaine. Si c'est là que la République doit faire des Français, pour eux, c'est également là qu'il faut empêcher les enfants de le devenir. Et donc tous les moyens sont bons, séduction, prosélytisme, menaces et violence. Et comme l'école est devenue le sanctuaire du no man's land et de la soumission, ben autant vous dire que les militants de l'islam politique n'ont pas beaucoup d'efforts à fournir pour prendre le pouvoir. L'autre raison fondamentale, c'est le changement de population. Alors là, on va juste être factuel. En France, le nombre de naissances d'enfants dont les deux parents sont étrangers a augmenté de 45% en 20 ans. Sur ces 45%, 90% concernent des parents nés hors Union européenne. Depuis 1999, le nombre d'immigrés a augmenté de 60%. Et si on prend les chiffres de la démographe Michel Tribala, elle estime que près d'une personne sur trois, parmi les moins de 60 ans, a une origine étrangère. Or, la majorité de l'immigration en France, on le sait, est d'origine africaine, arabe et de culture islamique, comme on dit. Et au nom de l'inclusion, et au nom de la honte de soi et de la haine de soi, on sait qu'on n'a rien transmis. Et donc, que nous rapportent les différentes études sur la nouvelle jeunesse aujourd'hui? Un exemple, 57% des jeunes musulmans pensent que la charia, est plus importante que la République. Donc ça veut dire qu'ils refusent d'épouser, évidemment, la culture, les règles, les mœurs françaises, mais d'autres qui sont importés. Donc vous avez des conflits de civilisation, naturellement, qui se font face sur un même sol, l'une qui est millénaire, qui est toujours faire ce qu'elle a fait, et l'autre qui est en conquête, qui est plus nombreuse, et qui intimide et qui utilise la force. Tout ça ne peut aboutir évidemment qu'à des violences et des guerres. Et une guerre qui est confirmée par des multiples faits et de cas en France. Sauf que ce conflit ou cette guerre, appelez-le comme vous voulez, ne se joue pas à armes égales, puisqu'au-delà du nombre et de la majorité d'un certain point du territoire français, nos gouvernants ont disqualifié la culture nationale depuis 40 ans, ont normalisé l'idéologie victimaire et propagé la culture racialiste. Et ça, ça a des conséquences. Un exemple sur les jeunes professeurs. 57% des professeurs qui ont moins de 30 ans sont favorables au port de signes religieux à l'université. 56% sont favorables au port de signes religieux pour les accompagnements scolaires. 59% sont favorables à l'autorisation du burkini. 51% sont favorables à l'autorisation d'horaires réservés dans les piscines. Donc, je vais terminer par une petite étude qui est sortie en 2021 et qui est passée complètement inaperçue. Une étude menée par le Centre européen pour le droit et la justice, qui était sur la persécution des convertis de l'islam au christianisme en France. Il ressort de cette enquête qu'une écrasante majorité de personnes qui quittent l'islam pour rejoindre le christianisme subissent une persécution familiale et communautaire. Dans les pays musulmans, la conversion est interdite et parfois même peut-être punie de mort. Mais le drame, c'est qu'on découvre qu'en France, c'est le cas aussi. Parce que cette étude fait état de séquestration, de renvoi au pays d'origine, de mariage forcé de jeunes filles, de violences physiques, de viols et même d'assassinats. Mais tout cela, il faut mieux ne pas en parler parce qu'on risque, il paraît-il, d'avoir des disputes et des conflits de famille lors des dîners du dimanche.
Vous nous faites la transition pour le second édito, Arthur de Vatrigan. Le temps est venu de parler de cet étrange article paru dans le Huffington Post. Au cœur de cet article, une accusation, c'est très sérieux, CNews
diviserait les familles. Mathieu Bocoté, que se passe-t-il?
Alors, c'est
qu'allez-vous dire qui va provoquer un drame demain midi?
Alors, je note d'abord, je ne veux pas vexer personne, que le Huffington Post n'est pas non plus un média de référence d'une qualité intellectuelle exceptionnelle. Mais il participe au mainstream et veut tout faire pour participer au mainstream. Et il nous propose donc un article qui nous explique que CNews divise les familles. Je cite deux ou trois extraits parce que ça m'amuse. Alors, en gros, le monde, les familles étaient unies auparavant. Elles communiaient dans une même vision du monde. Puis CNews est arrivé en proposant une lecture du monde apparemment différente, ce qu'on nous dit, et les familles seraient menacées. Je cite. Pendant 40 ans, le grand-père de Théo était de gauche. La norme, quoi. Ça, c'est moi qui le dis. Mais ça, avant qu'il ne se mette à regarder CNews plusieurs heures par jour. Je cite. Depuis quelques années, il a progressivement abandonné ses idéaux et développer une haine de l'islam alors qu'il n'avait aucun problème avec cette religion, regrette le petit-fils qui redoute désormais d'aborder certains sujets avec son aïeul. Autrement dit, pour ce jeune homme, je laisse côté le mot haine, c'est pas la présence massive d'un islam qui transforme les mœurs de son pays et qui fait que les Français se sentent de plus en plus dépossédés dans leur pays qui compte, c'est simplement le discours de CNews qui apparemment aurait un pouvoir de déstructuration complète sur la réalité. Mais il va plus loin, ça on arrive bientôt. Lors de moments forts de l'actualité couverts par CNews, des conflits ont ainsi pu survenir dans la famille de Théo, qui se souvient particulièrement des émeutes après la mort de Naël. Alors on s'entend, ce ne sont pas... Ah, ça, c'est génial. Mon grand-père disait qu'on n'était plus chez nous, que les cités étaient des zones de danger, de guerre civile. Ce sont des phrases que jamais je n'aurais pensé entendre de sa bouche. Peut-être la réalité a évolué, cher ami. Peut-être que la réalité fait en sorte qu'aujourd'hui, on s'inquiète de l'immigration massive. Et là, il nous explique la réaction de la famille qui est très importante. On a haussé le ton en lui faisant comprendre que ce n'est pas possible de dire ça. Ce qui n'a pas empêché son grand-père de continuer à regarder la chaîne. Autrement dit, l'émergence, la fracture du monopole du récit médiatique par le politiquement correct, le fait qu'on ne soit plus obligé de répéter les formules obligatoire justement du système entraînerait la déstructuration des familles. Le Huffington Post nous met en garde, faites attention, CNews, c'est mauvais pour l'unité familiale.
Vous voulez aussi nous parler d'une polémique étrange, d'un appel mensonger à la fake news lancé contre une invitée de la chaîne alors qu'elle donnait une information documentée, sourcée sur l'éducation sexuelle à l'école, Mathieu.
Oui, alors c'est Marie-Estelle Dupont, psychologue, qu'on a déjà reçu ici d'ailleurs, et qui nous explique, mais c'est sourcé, que, donc, c'est pas un propos lancé dans le vide, que l'éducation sexuelle à l'école connaît des dérives, notamment lorsqu'on explique à des jeunes, très jeunes, certaines pratiques sexuelles qu'ils pourraient rencontrer plus tard dans leur vie. Et elle nous dit, c'est inquiétant que l'argent public serve à faire à exposer la jeune génération à cela. Là, sur les réseaux sociaux, la scène est isolée, fake news, fake news, fake news. On dit, c'est scandaleux, l'ARCOM, intervenez, comment osez-vous laisser dire de telles choses? On apprend, Boulevard Voltaire corrige l'info, mais c'est pas le seul. On aurait pu le savoir déjà, on en a déjà parlé. Certains journalistes du Figaro aussi le disent. Mais c'est pas une fake news, c'est simplement vrai. L'éducation sexuelle à l'école connaît de vraies dérives. Et ce que vous présentez comme une fake news, c'est la réalité. Donc, que nous disent certains progressistes? Ils ne croient même pas au monde dont ils ont accouché. Ils ne croient pas à un monde qui déstructure complètement les repères de la jeune génération. Ils ont le réflexe pavlovien de croire que si c'est trop gros, ça doit être une fake news, alors que non, c'est seulement le monde qu'ils défendent qui nous conduit aujourd'hui, par exemple, au fait que certaines pratiques sexuelles très particulières soient enseignées à l'école sous le signe de l'éducation sexuelle aujourd'hui. Donc, c'est une scène où les progressistes eux-mêmes ne croient pas au monde dont ils ont accouché et demandent à l'ARCOM de sanctionner ce qui rappelle ce qu'est la réalité. C'est du génie.
Arthur de Vatrigan, 30 secondes.
Je suis fasciné, presque admiratif par l'imagination et la créativité des gauchistes pour tenter de s'auto-persuader qu'ils ont toujours raison. Même en soins palliatifs et intubés jusqu'au trognon, ils continueront le combat. Deuxièmement, c'est touchant de voir cette gauche qui n'a toujours pas compris que l'oncle facho a été grand remplacé par l'oncle bobo à la table de l'oncle gênant. Et enfin, s'il y a bien une seule chose qui se transmet et qui se perpétue chez les gauchistes, c'est bien cette haine du débat et de la discussion.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet article du Huffington Post extraordinaire. Dans un instant, vous recevrez non pas un, mais deux invités. Christophe Tardieu, le secrétaire général de France Télévisions, et David Lisnard, le maire de Cannes. Ils ont écrit tous les deux un ouvrage sur Georges Pompidou, 50 ans après sa mort. Est-ce que c'était mieux avant? L'économie, la culture, la France, le rayonnement, la puissance française. On va en parler dans un instant. A tout de suite pour la deuxième partie de Face à Mathieu Bock-Côté. Quasiment 19h30 sur CNews pour la suite de Face à Mathieu Bock-Côté. Je le disais avant la publicité, vous avez vu double, cher Mathieu Bock-Côté. Vous n'avez pas invité une personne, mais deux. David Lisnard, le maire de Cannes, et Christophe Tardieu, secrétaire général de France Télévisions. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. On va parler d'un certain Georges Pompidou.
Nous sommes dans le moment, dans la Pompidou-mania, appelons ça comme ça, dans une forme de nostalgie pompidolienne. Et les deux auteurs nous expliquent dans les premières pages du livre que l'un est venu à De Gaulle par Pompidou et l'autre est arrivé à Pompidou par De Gaulle. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une double nostalgie qui s'exprime dans ce livre. Mais les auteurs, et je commencerai par vous, Christophe Tardieu, nous expliquent que par ailleurs, ce n'est pas un livre nostalgique. Est-ce vraiment le cas? J'ai l'impression que vous tournez vers Pompidou, vous lui demandez des leçons, et vous avez quand même l'impression de nous présenter une France qui était un peu plus forte, un peu plus sûre d'elle-même qu'aujourd'hui.
C'est évident, mais après, moi, la nostalgie est un sentiment que j'ai beaucoup de mal à éprouver. À titre personnel, je trouve que demain est toujours peut-être le plus beau jour de ma vie. Donc, il n'y a pas de nostalgie dans ce livre. Il y a simplement la description d'une situation, d'une époque, d'un homme, avec ses grandes forces, avec ses quelques faiblesses. Et puis, c'est cette comparaison avec la situation d'aujourd'hui et cette idée, non pas d'être nostalgique, mais d'utiliser ce qu'a fait Georges Pompidou pour nous inspirer pour aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que sur un grand nombre de sujets, l'action qu'il a menée a été particulièrement importante pour notre pays. On peut penser en termes d'industrialisation, on peut penser en matière culturelle, on peut penser en matière d'éducation. Et puis il y a aussi des points qui sont intemporels. Et avec David, c'est un point important de notre livre, c'est cette lutte contre la bureaucratie et la technocratie sur laquelle Pompidou a lutté toute sa vie. Et pour laquelle il n'a pas eu que des réussites.
Alors, j'en arrive à vous, David Listard, dans un instant, mais une autre question pour vous, Christophe Tardieu. Est-ce que notre situation n'est pas contraire à celle de Pompidou aujourd'hui? Je m'explique, Pompidou est l'héritier d'un héritage immense. Il doit se demander que faire d'un héritage qui s'impose à lui avec une telle évidence, c'est l'héritage gaulliste. J'ai l'impression que si on regarde les années présentes et on regarde les 40 dernières années, les 30 dernières années, les 20 dernières années, c'est pas un héritage qui nous écrase à un point tel qu'on veut à tout prix le reproduire en se disant qu'on ne sera pas à sa hauteur. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation inversée?
Alors, c'est pas un héritage, mais en même temps, plus de 50 ans après sa mort, jamais la présence du général de Gaulle n'a été aussi vivante aujourd'hui. Tous les hommes politiques de quelque bord que ce soit s'y rapportent. Et Georges Pompidou a été son héritier le plus direct, le plus immédiat. Certes, il y a eu des fâcheries, on les évoque dans le livre, c'est mai 68, c'est l'affaire Markovitch, mais Pompidou le dit très bien, il est celui qui a le plus approché, le plus travaillé, le plus écouté le général de Gaulle. Et le dernier immense mérite de Georges Pompidou, c'est que grâce à lui, nos institutions de la Ve République, dont beaucoup pensaient que peut-être après la mort de De Gaulle ou le départ de De Gaulle, ces dernières partiront en capilotade, il les a renforcées, il les a validées et il a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous ayons la Constitution la plus solide et surtout celle qui a la durée la plus longue de l'histoire de notre pays.
David Lisnard, vous êtes un praticien de la chose publique, vous êtes un politique vous-même, vous regardez la pratique politique de Georges Pompidou. Y a-t-il matière à s'inspirer pour les temps présents?
Oui, c'est pour ça qu'on a fait un livre, d'ailleurs.
Oui, je m'en souviens. Mais vous notez, je mets l'accent sur la pratique politique. Donc, non seulement les leçons de civilisation, mais la leçon du praticien politique.
Mais tout est imbriqué, parce que Pompidou a cette richesse, cette force d'être à la fois un homme de principe et de grande constance dans les principes. Il est co-constructeur de l'héritage de Gaulle, n'en est pas que le dépositaire, et parallèlement d'être très, très pragmatique. Or, aujourd'hui, ce que l'on constate dans la vie politique depuis quelques décennies, et notamment quelques années, et les années récentes, c'est qu'il n'y a à la fois pas de principe stable, en même temps, et qu'il n'y a pas non plus de sens de l'exécution des choses. Donc, rien que cela, c'est une leçon évidente. Pompidou, quand nous préparions le livre, on a bien sûr regardé à nouveau ses conférences de presse, etc. Il n'est jamais dans la posture. Le langage est très direct, très franc, et pourtant, il n'est jamais méprisant, condescendant. Il est compréhensible du grand nombre, tout en ayant un langage très précis, mais jamais jargonneux. Bref, il est très respectueux de ceux qui l'ont mandaté, du mandat qu'il a reçu. Ça, c'est peut-être la plus belle des leçons.
Arthur de Vatrigan.
Comment peut-on définir le pompidolisme? Et pourquoi, d'ailleurs, s'il y a une définition politique, une tradition politique, pourquoi il n'y a pas eu d'école ensuite? Et pourquoi, d'ailleurs, peu s'en réclament aujourd'hui?
Alors, oui, parce qu'on parle de Pompidou, mais c'est dans un milieu qui n'est pas forcément très grand public, et ça a été pour les 50 ans de sa mort, mais on invoque peu Pompidou. Une des raisons, c'est peut-être qu'il arrive après le général de Gaulle, et qu'il est forcément un petit peu dans l'histoire, écrasé par la figure du commandeur, qui était le général de Gaulle. L'autre raison, c'est qu'il disait lui-même, je veux être le président, non pas de la postérité, mais de la prospérité. Et il a peut-être mieux réussi encore que ce qu'il imaginait, parce qu'il avait quand même beaucoup d'orgueil C'est ce que nous montrons aussi dans le livre. Hein. Il n'y a pas que le général de Gaulle qui avait de l'orgueil. Donc ce sont des raisons évidentes. Ensuite, le pompidolisme, je crois que Pompidou n'aurait pas aimé un mot en « isme » pour le définir précisément. Et c'est ce qui, en tout cas, à titre personnel, me va très bien. C'est-à-dire que Pompidou était un homme de son temps. Il incarnait la constance de la France. Il n'était pas dans la nostalgie, pour reprendre votre première interrogation. Une des leçons de Pompidou, c'est précisément de toujours affronter la réalité et l'époque. Et c'est précisément peut-être cela qui fait qu'il n'est pas rattaché à une doctrine. Et pourtant, je pense que nous parvenons à démontrer qu'il y a un fond doctrinal, en tout cas, une pratique et une vision de la France dont le rayonnement ne peut passer que par la puissance effective. Et ça rejoint les trois questions d'ailleurs. C'est-à-dire qu'après le verbe de Gaulle, il fallait, pour continuer son œuvre, remplacer le verbe et l'aura de Gaulle par une politique industrielle, une politique de la défense, déjà commencée par De Gaulle et Pompidou, mais stimulée par Pompidou, puisque tout reposait sur l'effectivité de la puissance, notamment industrielle.
Alors, je reviens sur le contraste entre les deux hommes, le général De Gaulle et Pompidou. Un contraste, me semble. Alors, non pas seulement vous le suggérez, mais vous l'évoquez clairement. De Gaulle est un homme qui a beaucoup médité sur l'histoire de France, la grandeur, et ainsi de suite. Pompidou, notamment dans le Nœud gordien, mais pas seulement, j'ai l'impression qu'il y a une réflexion plus sociologique chez lui sur les problèmes propres à la société moderne.
Et civilisationnel.
Alors, vous posez bien la question, est-ce qu'on peut dire que Pompidou, la réflexion civilisationnelle est finalement plus forte chez Pompidou que chez le général de Gaulle, Christophe Tardieu et ensuite David Lisnard?
Oui, probablement. Le général était obsédé par la grandeur de la France. Et c'est quelque chose qui l'a dirigé, qui l'a conduit toute sa vie. Et c'était ça qui était son véritable moteur. À côté de lui, Georges Pompidou s'est davantage préoccupé du sort des Français, qui était peut-être la partie que De Gaulle appréhendait le moins bien, en les traitant parfois assez rudement. David l'a souligné, et c'est tout à fait juste. Et puis surtout, ce qui est très impressionnant chez Pompidou, c'est cette préoccupation civilisationnelle qui est extrêmement forte. Qu'allons-nous devenir? Il le dit formidablement bien à la fin du Nœud gordien. Quelqu'un un jour tranchera ce Nœud gordien, ce sera avec l'épée d'Alexandre, et un futur fasciste n'est pas impossible. Donc c'est vraiment quelqu'un qui avait une inquiétude très, très forte de ce côté-là, alors que De Gaulle était finalement certainement beaucoup plus, bien qu'il était cyclotimique et parfois très pessimiste, beaucoup plus persuadé du caractère éternel de la France.
David Lisnard, cette réflexion civilisationnelle, de quelle manière nous éclaire-t-elle aujourd'hui?
Je vous vois venir. Non, mais elle, en tout cas, c'est une réalité. C'est-à-dire que Pompidou va très loin dans la réflexion civilisationnelle. C'est vrai sur le rapport à l'environnement. Il crée le premier ministère de l'environnement en replaçant l'environnement, puisqu'on disait encore environnement à l'époque, à la réalité géographique, paysagère, démographique du pays. C'était un environnement très enraciné, très terrien. Nous citons dans le livre, dans le dernier chapitre, la lettre au général X Saint-Exupéry. Pompidou est vraiment dans cela. C'est-à-dire la civilisation, ce sont les liens invisibles entre les choses. Vous savez, cette définition sublime de Saint-Ex. Et c'est aussi un peu ce que définit Hannah Arendt. Donc, on est dans une approche en fait, Pompidou, avant tout le monde, chez les chefs d'État, on ne trouvait que ces approches que dans des milieux vraiment philosophiques, définit, identifie, alerte quant à la crise de la postmodernité. Il est le président de la consommation, mais il dit aussi, avec Saint-Ex, la vie, ce n'est pas que des frigidaires. Quoi.
Mais est-ce que ces liens invisibles que vous évoquez ne sont justement pas ceux qui sont détruits par la bureaucratie qui s'empare de tout?
Oui, moi j'en suis convaincu absolument, entre autres par la bureaucratie, mais pas seulement, par ce vide spirituel dans lequel on est, par l'absence de repères. C'est René Char, hein, le poète, qui disait « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». Et donc il faut en permanence réinventer un testament spirituel. Alors on va pas faire de philosophie de bas étage, j'en ai pas du tout le niveau et la vocation, mais oui, tout à fait, aujourd'hui, ce sont ces liens qui font qui s'estompent, ce manque de spiritualité commune, qui font que le mal, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal, hein, disait Arendt, et j'arrêterai là, mais que voilà, l'islamisme progresse, le consumérisme, enfin toutes ces faiblesses se nourrissent les unes des autres. Vous avez écrit plus que quiconque sur le racialisme, l'indigénisme, tout cela et d'une cohérence destructrice aujourd'hui.
Vous dites, on parle beaucoup de Pompidou parce que c'est l'anniversaire, et on a beaucoup d'hommages et beaucoup de célébrations, et presque hagiographiques. Pourtant, il y a peut-être des leçons critiques qu'on pourrait faire de Pompidou. Vous parlez de civilisation, il a quand même à son actif d'avoir nommé Charmant Delmas Premier ministre, qui ouvre la séquence progressiste rien qu'avec son discours sur la nouvelle société, même si Pompidou s'était en tout cas opposé. Il y a eu la réforme de la formation professionnelle qui ont les conséquences aujourd'hui des syndicats qu'on connaît. L'immigration de travail qu'il a beaucoup encouragé, la loi Pleven, la loi Mazo sur la réforme du code de nationalité. Et à son passif, c'est quand même sous son mandat que le Conseil constite commence à prendre le pas sur le Parlement en jugeant des lois non plus sur la forme mais sur le fond, et sans parler du délitement de l'université ou à l'école. Donc il y a quand même sous Pompidou un démarrage des conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Donc je trouve que de parler de Pompidou de civilisation, c'est un peu lui pardonner beaucoup de choses.
Alors deux choses. D'abord, le propos de Pompidou sur la civilisation, il est évident, manifeste, il est sourcé, et il est lucide et il est annonciateur. Premier élément. Le deuxième élément, vous citez le Conseil constitutionnel, c'est pas une décision de l'exécutif.
Non, c'est à son passif.
Voilà. Et d'ailleurs, De Gaulle lui-même se méfie, mais enfin, c'est quand même les institutions que l'on doit au général De Gaulle. Hein. Le troisième élément, il faut faire attention aux lucidités rétrospectives. Et ce que vous citez à l'époque aurait pu ne pas être du tout le début d'une déliquescence de l'État régalien et de la solidité de la société française. La nouvelle société, Pompidou en conteste le concept même. Et il dit même, de toute façon, je ne suis pas là pour chefer la société, on doit l'accompagner, mais on ne doit pas la précéder. Donc, il remet les choses en ordre, et la politique qui est menée n'est pas une politique qualifiée, selon vous, de progressiste. Deux autres éléments, dans les réformes que vous menez, ce sont des réformes, d'abord, qui, y compris sur l'immigration de travail, mais qui sont des politiques totalement maîtrisées par l'État. Ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Nous sommes encore jusqu'aux années Giscard. Hein, il y a des basculements avec des jurisprudences, Conseil d'État, etc., notamment sur le regroupement familial. Et puis ensuite, il y a bien sûr le 80, où là, ça part très mal. Mais l'État décide, à l'époque, de si on arrivait aujourd'hui à avoir la même politique migratoire que sous Pompidou, vous auriez beaucoup moins de débats sur ce plateau. Hein, parce qu'on maîtrisait qui venait, combien de personnes venaient, et c'était nettement maîtrisé quantitativement et donc qualitativement en termes d'intégration puis d'assimilation. Et sur l'éducation, il portait une haute ambition culturelle et éducative, non pas pour niveler par le bas l'éducation, le chapitre, on essaie de le démontrer aussi dans le chapitre, mais pour offrir la possibilité d'accéder à une éducation de qualité à chacun, parce qu'il était lui-même un pur produit du mérite républicain, fils d'instituteur, petit-fils de paysan du Cantal.
Christophe Tardieu, dans votre ouvrage, chapitre évidemment sur la politique étrangère, on ne pourrait pas faire autrement. Est-ce que, alors, le général de Gaulle, c'est celui qui a replacé la France au cœur de la politique étrangère en son temps, sur la scène du monde. Est-ce que Pompidou, et est-ce que, parce qu'on cherche quelquefois ensuite à quel moment la France perd un peu son indépendance, perd sa capacité à jeter son propre regard sur le monde, Pompidou est un véritable héritier du général de Gaulle en la matière ?
Ah oui, c'est incontestable. D'abord, Pompidou s'inscrit complètement dans l'héritage gaullien en matière de politique étrangère. Il y a un petit point qu'on pourrait éventuellement lui reprocher, c'est qu'il n'a pas sans doute compris le « Vive le Québec libre » du général de Gaulle. Vous y êtes sensible, je crois. Et je dois dire que il avait parlé à l'époque de folie gratuite, et c'est sans doute le seul point sur lequel Georges Pompidou n'a pas compris l'inéluctabilité de l'indépendance du Québec, qui pour nous est aujourd'hui une évidence.
Je me permets de rappeler que vous êtes l'auteur de La dette de Louis XV, un livre consacré au rapport entre le général de Gaulle et le Québec.
Je vous en remercie de le citer. Après, il y a une totale fidélité sur les grands principes à l'héritage gaullien en matière de politique étrangère. Dans l'esprit de Pompidou, c'est une fois de plus quelque chose de très pragmatique. Il a bien compris qu'il n'avait pas l'aura du général de Gaulle. Il a bien compris qu'il n'avait pas la magie du verbe du général de Gaulle. Mais en s'inscrivant complètement dans son héritage, lui, son objectif, c'est quoi ? C'est de garantir et maintenir la puissance de la France dans le monde à travers une politique industrielle qui fait de notre pays une des premières puissances au monde en matière économique. Et ça, c'est le vrai héritage de Pompidou, c'est de faire en sorte que notre force économique de l'époque nous permette de continuer à jouer un rôle majeur dans le concert des nations.
Alors, je me permets une question aux deux sur ce qu'on pourrait appeler le style de Pompidou. Parce qu'il y a le style général qu'on reconnaît, il y a le style de Churchill, par exemple. Et il y a aussi un style pompidolien, c'est-à-dire un mélange d'autorité et de désinvolture. Vous évoquez, il incarne à la fois une véritable puissance physique et en même temps, c'est le cousin du pays à qui on ne raconte pas finalement. Si on devait qualifier le style de Pompidou, qui peut en amener même quelquefois aujourd'hui à se réclamer de son image au moment de faire leurs vœux pour les uns pour les autres, quel est le style de Pompidou selon vous?
Le général de Gaulle, c'était d'abord un immense homme de lettres. On le découvre aujourd'hui à quel point son style est d'une beauté absolument incroyable. Pompidou écrit remarquablement bien. Il est normalien, il est agrégé de lettres, mais c'est un style qui lui ressemble bien parce qu'il est finalement tout en simplicité et en profondeur. Ça nous a beaucoup impressionnés avec David en relisant ses discours, en relisant ce qu'il a écrit dans le Nœud gordien, dans Pour établir une vérité et autres. C'est de voir à quel point il a un vocabulaire d'une précision admirable, tout en étant extrêmement recherché, donc il n'est pas dans la posture et dans la volonté de faire jeune. Et le style Pompidou, en fin de compte, c'est le style de quelqu'un qui aura dit un jour à Paris Match, les peuples heureux n'ayant pas d'histoire, moi je souhaite qu'on ne parle pas trop de moi et de mon mandat.
David Lisnard.
Il y a un style parce qu'il y a une esthétique Pompidou. Et c'était déjà le cas à son époque, hein, le col roulé qui a été remis un petit peu sur le devant de la scène lorsque nous avions les résultats du saccage de notre filière nucléaire il y a un an et demi, vous vous souvenez. Et une esthétique, il était à la fois cet homme terrien, mais totalement de son époque, y compris dans son style vestimentaire. Sur la couverture du livre que vous avez eu l'amabilité de montrer, on ne le fait jamais assez, voilà, que l'on revoit maintenant, vous voyez cette photo, elle aurait pu être dilettante. Or, il est à la terrasse d'un café, et il est pourtant très élégant, très intemporel, et dans son époque, totalement. C'est difficile de définir un style, mais il en avait un indéniablement, par son langage, par son phrasé, par la politique qu'il menait, mais aussi c'était l'époque où la France était très, très, faisait les modes très souvent. C'était Courrèges. Claude Pompidou s'habille en Courrèges. C'était le cinéma populaire de Funès, etc. Donc on n'est pas dans la nostalgie, mais c'était une France beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, beaucoup plus sûre d'elle-même, pour reprendre un terme utilisé dans un autre contexte par le général de Gaulle, et une France qui était dans son époque. Et c'est une des leçons, c'est pour ça que je reviens toujours à la première question, nous on n'est pas dans la nostalgie. C'est qu'aujourd'hui, de retrouver la force en nous, de refaire un peuple et non pas un agrégat de population, pour retrouver une ambition sereine. Pompidou, c'est l'ambition sereine.
Alors, s'il nous reste 2 minutes, la question, pour les deux, en un mot, en 1 minute pour chacun, de cet héritage, finalement, s'il faut retenir un élément, surtout dans la classe politique actuelle, qui sont les meilleurs héritiers de Pompidou et de quelle manière être bon héritier de Pompidou?
Alors, citer les héritiers, moi, je n'y arriverai pas parce que ça me paraît trop, trop compliqué, le temps a passé et puis il y a trop de postures de part et d'autre. La manière d'être un bon pompidolien, d'être fidèle à l'héritage de Pompidou, c'est d'abord l'obsession de la puissance économique, l'obsession d'une industrie puissante, ce qui n'est malheureusement plus le cas, et c'est cette extraordinaire fidélité à l'héritage gaullien, que ce soit pour les institutions ou pour la politique étrangère.
David Lisnard, de quelle manière être un bon pompidolien?
Alors, dans le même esprit, on peut pas, et puis on a changé d'époque. En revanche, comprendre que la liberté et la sécurité ne reposent que sur l'effort et la puissance. Qu'il ne peut pas y avoir de liberté et de sécurité sans effort et sans puissance, sans élévation individuelle et sans force collective. Ça, c'est l'héritage de Pompidou. C'est une exigence permanente. Et puis, c'est diriger le pays en mode projet, comme on dirait en management. C'est-à-dire avec des priorités, pas dire qu'on peut faire tout en même temps, pas dire tout et son contraire, avoir des objectifs, s'y tenir et avoir des résultats. Parce qu'à l'époque de Pompidou, la France faisait mieux que le reste du monde. Seul le Japon, qui était la grande puissance de l'époque montante, faisait mieux que la France en termes de taux de croissance industrielle, par exemple. Nos classements éducatifs étaient parmi les meilleurs au monde. Aujourd'hui, on est dans les derniers. C'est une exigence permanente. C'est ça, cette force qu'il y a, la constance des principes, l'amour du pays, la volonté que les Français vivent bien. Et donc, ce qui faisait que Pompidou était populaire jusqu'au bout, c'est qu'on ressentait qu'il s'appliquait à lui-même ce qu'il demandait aux autres. Et c'est une grande leçon pour aujourd'hui. Et qu'il n'était pas dans la posture, il n'était pas dans les séquences de com' théâtrales. Suivez mon regard. Voilà, donc c'est un grand enseignement.
Christophe Tardieu, secrétaire général de France Télévisions, David Lisnard, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France.
Et de Nouvelle Énergie.
Et de Nouvelle Énergie, élu à l'américaine en 2020 à 88,1, c'est ça ?
À 88,12, si vous voulez.
12.
Passe à 88.
La précision.
Ça n'arrivera plus, ça.
La précision, ça aussi, c'est pompidolien. Merci à tous les deux. Merci, cher Mathieu. Merci, cher Arthur.
Merci à vous.
Dans un instant, l'heure des Pro 2, on va parler de votre ville. Et on va revenir sur un fait, là aussi, qui est un fait de société, c'est la délinquance juvénile, avec un délinquant qui avait violenté une femme de 89 ans.
Absolument.
Il y a deux ans, qu'on a retrouvé deux ans plus tard en train de dealer.
Et ça fait plusieurs mois que j'alerte sur le fait qu'on le retrouve, qu'il deal, etc.
Personne n'en parle comme d'habitude.
L'impuissance publique, tout le contraire de Pompidou.
Personne n'en parle comme à chaque fois. Il s'avère qu'on ouvrira l'heure des Pro 2 dans un instant avec. A tout de suite, restez avec nous bien sûr.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.